Bonjour à toutes et à tous. Quelle parole réconfortante. Comment craindrais-je mes lendemains sont dans ses mains. Nous allons tourner notre Bible à l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 2. L'Évangile de Jean, chapitre 2. Et nous allons voir ce matin le premier miracle que Jésus il a opéré en Galilée, dans une ville qui s'appelle Cana. Évangile de Jean, chapitre 2, on va lire le premier verset. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or il avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le Seigneur bénisse sa parole. Et j'en suis sûr qu'on a lu plusieurs fois ce passage. On connaît presque par cœur. On connaît ce miracle que Jésus a opéré. Mais quand même, nous allons puiser pour connaître plus ce qu'on peut tirer comme leçon pour nous, ce qu'on peut apprendre, ces quelques versets. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, Jésus accomplit ce qu'on appelle des miracles. Mais j'espère que vous avez remarqué qu'ici c'est marqué des signes. Dans l'évangile de Jean, Jean ne l'appelle pas miracle, il l'appelle des signes. On nous dit dans Jean 20, quel était le but de l'évangile de Jean. Jean 20, versets 30 et 31, je vais lire. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc le but de cet évangile est que puisque les disciples, puisqu'on peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le but de Jean. Le but de Jean dans son évangile était de produire la foi qu'il a cherché à accomplir en enregistrant les signes. Dans le livre dans cet évangile de Jean, nous trouverons 7 ou 8 miracles que Jésus a fait. Les signes que Jésus a accomplis étaient des miracles, expression de pouvoir divin surnaturel, conçu pour attester sa relation unique avec Dieu le Père. Regardez ce que dit Pierre, apôtre Pierre, le jour de Pentecôte. Actes 2, versets 22-23. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc Pierre il dit encore une fois, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. Dieu qui a opéré le prodige et le signe par Jésus-Christ. Le premier signe enregistré par Jean a eu lieu près de temps, peu de temps après que Jésus eut acquis ses premiers disciples. Et dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus il commence à appeler ses disciples. Il y a déjà 5-6 disciples qui commencent à suivre Jésus-Christ. Et Jésus fait des signes, pas des miracles. Et la raison pour laquelle ces signes ont eu lieu était pour que les gens croient en lui, pour dire qu'il était Jésus, il était Christ, le Messie, envoyé par Dieu. Jean est assez restrictif quant au nombre de ces signes qu'il enregistre. Il n'y en a que 7 ou 8 dans tout l'évangile. Il a réduit les miracles et on a choisi 7 miracles spéciaux qui, selon lui, sont des signes significatifs pour démontrer qui était Jésus et ce qu'il faisait. La clé de l'histoire du miracle au mariage de Cana est, je crois, dans la toute dernière phrase de cette histoire. Regardez les derniers versets, le verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc ça, c'est le premier des miracles que Jésus qu'il opéra. Et dans la tradition catholique, l'Église romaine, il tient que Jésus-Christ, quand il était bébé, il a déjà fait les miracles. Ça, c'est faux. La Bible dit clairement que ça, c'était le premier de tous les miracles que Jésus a opérés. Car un miracle est toujours un signe de quelque chose. Un signe que quelque chose de plus profond se passe. Mais dans le monde, les gens ils sont éblouis par le miracle. Ils courent auprès des miracles. On connaît le groupe des chrétiens qui courent auprès des miracles. On voit souvent les publicités, la guérison, le miracle de guérison, le miracle. Mais un miracle est toujours un signe de quelque chose, un signe que quelque chose de plus profond se passe. Dans l'évangile de Jean, les miracles de Jésus jouent un rôle légèrement différent de celui des autres évangiles. Ils sont un peu comme des signes de direction. Ils pointent vers quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Ils montrent le chemin. Ils montrent la personne de Jésus. Les signes dans l'évangile de Jean indiquent la gloire de Jésus et la puissance et l'amour de Dieu qu'il apporte dans le monde. Ils sont des signes de la règle de la rupture de Dieu dans la vie ordinaire. Tout le monde ne comprendra pas les signes. Mais pour ceux qui verront, ces signes nous aident à voir qui est vraiment Jésus. Dans une histoire magnifiquement écrite, l'écrivain de l'Évangile nous dit que le premier des signes de Jésus a eu lieu lors d'un mariage à Cana, en Galilée. Mais ce signe inattendu, et tout le monde ne se rend pas compte de ce qu'il montre. Mais souvent, on parle facilement de ce miracle que Jésus l'a changé, il a transformé l'eau en vin. On peut raccourcir en une phrase. Jésus changea le miracle, il a changé l'eau en vin. Regardez le verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. 3 jours après. Qu'est-ce que ça signifie, les trois jours après? Le troisième jour après que Jésus a fait 2 autres disciples. Si nous lisons le premier chapitre, nous pouvons voir que Jésus il était en train de faire les disciples. Et 3 jours après, je pense qu'il n'y a pas un jour Jésus il a rien fait. Et chaque jour était rempli des choses. Il n'avait jamais pris la vacance. Nous, nous sommes dans le temps de vacances et certains sont déjà partis. Ils se trouvent, je ne sais pas, sur le cocotier, sur un hamac. Mais il y a certains travaux. Mais Jésus n'a jamais pris la vacance pendant son ministère. Et parfois, je trouve qu'en France, c'est quelque chose. Vacances, c'est quelque chose. Il faut absolument prendre. Pas toutes les vacances sont bien méritées quand même. Donc, le troisième jour après que Jésus a fait 2 autres disciples. Et ils disent que normalement, ça prend à peu près 2 jours pour partir de Judée, où Jésus trouvait le premier jour après son baptême, et pour aller en Galilée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, à Galilée. Cana était environ 6 ou 7 kilomètres au nord-est de Nazareth et au sud-ouest de la mer de Galilée. Et apparemment, les archéologues, ils ont toujours trouvé une petite, toute petite ville de Cana. Ça pourrait être le village de Cana que la Bible parle aujourd'hui. Le lendemain, si nous regardons le premier chapitre de Jean, verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Donc Jésus, il avait déjà l'intention de rendre en Galilée. On peut deviner peut-être qu'il était invité pour ce noce à Cana. Et pour comprendre plus sur la ville de Cana, et Nathanaël, le disciple de Jésus, il était de la ville de Cana. Nous voyons ça en Jean 21, verset 2. Donc, 3 jours après, il y a eu des noces à Cana. Et on trouve que la mère de Jésus était là aussi. La mère de Jésus, Marie, on ne le nomme pas ici, la mère de Jésus était là. Pas seulement la mère de Jésus, aussi Jésus et ses disciples étaient invités pour cette noce. Jésus et ses disciples n'étaient pas, nous voyons qu'ils n'étaient pas des ascètes. On peut imaginer que Jésus n'a jamais assisté à un mariage, une célébration. Il était toujours très sérieux. Mais ce n'est pas le cas ici. Déjà en Matthieu 11, 19, dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Même si les pharisiens sont exagérés, Jésus-Christ, il mangea, il buva, comme n'importe quelle personne. Donc, peut-être pour nous, c'est un grand événement, mais pour Jésus, il était invité pour le mariage, il assistait au mariage comme n'importe qui. À bientôt donc, le mois prochain, nous aurons le mariage dans notre église. Et 2 jeunes personnes vont se marier. Donc, nous allons assister au mariage aussi. Nous apprenons tout d'abord, à partir de ces versets, combien honorable, dans la vue de Christ, est le domaine du mariage. Si Jésus, parfois on peut être invité pour un mariage, mais ce n'est pas nécessaire que nous assistions au mariage. Parfois on peut désister. Mais ici, nous apprenons que Jésus, il a assisté à ce mariage. Donc, combien on est honorable dans la vue de Christ et le domaine du mariage? Il n'est pas désisté. Être présent à un mariage était presque le premier acte public du ministère de notre Seigneur. Le premier chapitre, Jésus il prit le baptême, il a eu le témoignage du Père, il appelle ses disciples. Après, la première chose que nous voyons ici dans l'évangile de Jean, il assiste à un mariage. Une fois, j'ai rencontré un couple qui était venu à mon bureau, dans mon lieu de travail, avec leur fils de 10 ans, pour obtenir des documents officiels. Au cours de notre conversation, en supposant qu'ils étaient tous les deux mariés, j'ai proposé qu'elle puisse demander un document privilégié, parce qu'elle était l'épouse de ce monsieur. Puis, à ma grande surprise, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas mariés. Et tout de suite, je leur ai dit pourquoi ne pouvaient-ils pas se marier. Ils m'ont dit que c'était coûteux. Moi, j'ai demandé comment ça le mariage qui est coûteux. Ils m'ont répondu non, le divorce. Et aujourd'hui, les gens, ils ont peur de se marier parce qu'ils sont en vue déjà la divorce. Oui, mes chers amis, nous vivons une époque où les gens ne veulent pas se marier à cause de la facteur presque certain qui est le divorce. Le mariage n'est pas un sacrement, comme l'affirme l'Église de Rome, mais c'est quelque chose qui ne doit jamais être parlé avec légèreté. C'est un domaine honorable, institué de Dieu à l'époque de l'innocence de l'homme et qui nous signifie l'union mystique qui existe entre le Christ et son Église. Ça, c'est la comparaison. Dieu ne peut pas comparer quelque chose, un attribut de Dieu, son caractère, par quelque chose qui n'est pas si important, si banal. Si Dieu compare le mariage, sa relation entre lui et l'Église, on peut comprendre combien c'est honorable. La société n'est jamais en bonne santé et la vraie religion ne s'épanouit jamais dans ce pays où le lien de mariage est légèrement estimé. Ceux qui estiment légèrement n'ont pas l'esprit de Christ. Celui qui a embelli et orné le mariage est le même qui dit que le mariage soit honoré de tous. Une chose, cependant, ne doit pas être oubliée. Le mariage est une étape qui affecte si sérieusement le bonheur temporel et le bien-être spirituel de deux âmes immortelles qu'il ne doit jamais être pris en main avec légèreté et sans considération. Pour être vraiment heureux, il doit être entrepris avec respect, discrètement, sobrement et dans la crainte de Dieu. La bénédiction et la présence du Christ sont essentielles à un mariage heureux. Le mariage auquel il n'y a pas de place pour Christ et ses disciples n'est pas un mariage auquel on peut s'attendre à prospérer. Donc, nous continuons avec ce passage. La mère de Jésus était là, le verset 2, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Nous pouvons imaginer que c'était le mariage d'un proche, car Marie et Jésus avec ses disciples étaient invités. Certainement la famille de Jésus, de Marie. Marie, la mère de Jésus, était là. Notez ici que Marie est mentionnée comme la mère de Jésus et non Jésus comme le fils de Marie. Mais parfois, on change la place, on transforme les choses et après, une doctrine se forme. Marie, la mère de Jésus, était là et Marie est mentionnée comme la mère de Jésus, non Jésus comme le fils de Marie. Marie était connue et honorée comme la mère de Jésus grâce à Jésus. Ce texte ne nous parle pas de Joseph, l'époux de Marie. Par son absence, nous pouvons imaginer qu'il était déjà mort. Parce que nullement on parle de Joseph. Ce texte que nous avons ce matin peut être utilisé pour corriger la doctrine erronée de l'Église de Rome. Bien souvent, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Joseph, Marie. Ils avaient leur place dans la vie de Jésus, certes, mais on ne peut pas glorifier l'homme comme Dieu. Et en glorifiant l'homme, on ne peut pas diminuer l'importance du Fils de Dieu. Le verset 3, le vin avant manqué, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Nous comprenons par ce verset, comme indiqué par la mère de Jésus, qu'elle semble avoir un certain rôle de responsabilité et d'autorité. Et parfois, dans le mariage, il y a quelqu'un qui s'occupe des choses. Donc, la mère de Jésus, certainement, elle avait la responsabilité pour voir qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il va bien ou qu'est-ce qu'il ne va pas bien. Donc, dès qu'elle a remarqué qu'il manque le vin, elle vient vers Jésus et elle dit qu'il manquait de vin. Et manquer de vin aurait été un embarras pour Marie si elle était en charge. Et plus que ça, ça devrait être un embarras pour la famille. La famille qui invite des personnes pour le mariage. Le mariage est un grand événement, surtout au Moyen-Orient, où il durait plusieurs jours. Normalement, ça dure une semaine. Et manque de vin dans le repas doit être un grand embarras devant les invités. Nous apprenons aussi ici qu'il y a des domaines où il est légal d'être joyeux et de se réjouir. Notre Seigneur lui-même a sanctionné une fête de mariage par sa propre présence. Et en tant que chrétien, nous ne pouvons pas complètement être bloqués avec des fêtes normales. Les fêtes pour être heureux avec ceux qui sont heureux. Il n'a pas refusé d'être invité lors d'un mariage à Cana de Galilée. Regardez ce que Ecclésias 19 dit. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Notre Seigneur, dans le passage devant nous, a dû faire face à la fois la fête et l'utilisation du vin. La vraie religion n'a jamais été destinée à rendre les hommes mélancoliques. La vraie religion n'a jamais été destinée à rendre les hommes mélancoliques. Au contraire, elle est destinée à augmenter la joie réelle et le bonheur chez les hommes. Si nous sommes de croyants, si nous avons cru en Jésus-Christ, et si nous avons Jésus-Christ comme sauveur de notre âme, nous devrions être joyeux. On n'a pas besoin d'être triste. Bien entendu, un serviteur de Christ ne devrait rien avoir avec les choses du monde qui peuvent le conduire vers le péché. Mais en même temps, il n'a pas le droit de remettre les loisirs innocents et des réunions de famille au diable et au monde. Le chrétien qui se retire entièrement de la société et de ses semblables et marche sur la terre avec une tête d'enterrement fait mal à la cause de l'évangile. Lorsque le monde il arrive à voir la joie que vous avez dans votre cœur, mais sinon, est-ce qu'on montre que on est complètement déconnecté de ce monde? On vit bien dans ce monde. Le Seigneur il a dit que vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Un esprit gai et bienveillant est une excellente recommandation à un croyant, C'est un malheur pour le christianisme quand un chrétien ne peut pas sourire. Un cœur joyeux et une volonté de participer à toute gaieté innocente sont des dons d'une valeur inestimable. Ils vont loin pour adoucir les préjugés, enlever des pieds d'achoppement pour faire le chemin pour Christ et l'Évangile. Et parfois, on vit dans le monde. Je pense que vous êtes comme moi et moi, je suis comme vous. Et souvent, on a des familles, on a des liens parentés qui ne sont pas en Christ. Donc, nous sommes invités parfois pour les fêtes. Mais est-ce qu'on devrait systématiquement refuser toutes les fêtes ou on peut parfois aller et garder notre limite? Mais qu'est-ce que nous allons sacrifier? Est-ce que nous allons sacrifier notre vie spirituelle dans ces fêtes ou nous allons complètement abstenir de ces fêtes? Et parfois, ça arrive qu'on peut sacrifier, mais naturellement. Le premier sacrifice qu'on fait, c'est le Seigneur et l'Église. On peut facilement sacrifier l'Église pour aller jouir dans le fête. Non, on ne parle pas de ça. Et il y a des choses normales et le plaisir normal que on peut participer avec la famille ou avec nos amis. Le sujet est sans doute difficile et délicat. Il est difficile de faire la différence entre ce qui est légal de ce qui est illégal, entre ce qui est juste et ce qui est mauvais. Il est très difficile en effet d'être à la fois joyeux et sage. On est appelé d'être joyeux, en même temps on est appelé pour être sage. On doit être très sage quand on va dans le monde, mais en même temps, nous ne devrions pas garder ou montrer une tristesse et une amertume parce qu'on est chrétien. Les esprits élevés dégénèrent bientôt en légèreté. L'acceptation de nombreuses invitations aux fêtes conduit bientôt à une perte de temps et engendre la maigreur de l'âme. Et parfois, on peut voir que les croyants, les chrétiens, ils sont invités chaque semaine. Si vous savez, les fêtes, souvent, c'est le dimanche. On est invité le dimanche. Et surtout, pendant l'heure de... Parfois, on est obligé de dire non. On est obligé de dire non. On ne peut pas. On ne peut pas assister à quelque chose pendant le moment où je devrais adorer le Seigneur avec tous les saints. Et si nous allons absenter pour assister à la fête plusieurs fois dans le mois, plusieurs fois dans l'année, et ça va engendrer la maigreur de l'âme. Manger et boire dans les tables des autres peuvent abaisser le ton de notre religion. Aller souvent en compagnie est une forte pression sur la spiritualité du cœur. Ici, les enfants de Dieu ont besoin d'être sur leur garde. Chacun doit connaître sa propre force et son tempérament naturel et agir en conséquence. Ce qui pourrait être bon dans une culture n'est pas être bon dans une autre culture. Si lui, il fait, il peut faire. Mais moi, je ne peux pas faire. Un croyant peut aller sans risque là où un autre ne peut pas. Heureux est celui qui peut utiliser sa liberté chrétienne sans en abuser. On peut parler de liberté chrétienne, mais on n'a pas droit d'abuser notre liberté chrétienne. J'espère que vous comprenez ce que c'est. Il est possible d'être gravement blessé dans l'âme lors des fêtes de mariage et des tables d'amis. Une règle d'or sur le sujet peut être fixée, dont l'utilisation nous épargnera beaucoup d'ennuis. Allons toujours aux fêtes dans l'esprit de notre divin maître. Et nous n'allons jamais là où il n'aurait pas été. Jésus, il était, souvent les gens, ils prennent un exemple, ils disent que Jésus, il était dans un mariage. C'est quoi le problème? Oui, Jésus, il était. Nous aussi, nous pouvons aller dans un mariage. Mais qu'est-ce que nous faisons dans un mariage? Ça, on devrait poser la question à nous-mêmes. Comme lui, nous nous efforçons d'être toujours... Vous savez, qu'est-ce que Jésus, il était préoccupé? Occupé des affaires de notre Père. Il était occupé avec les affaires de son Père. Et comme lui, nous nous efforçons d'être toujours occupés des affaires de notre Père céleste. On peut être n'importe où, mais est-ce que nous sommes occupés avec l'affaire de notre Père céleste? Comme lui, promouvons la joie, mais que ce soit la joie de la douceur, sinon la joie dans le Seigneur. Apportons le sel de la grâce dans nos conversations, quand on parle avec les gens. N'ayons jamais honte de montrer nos couleurs et de faire voir aux hommes qui nous sommes et qui nous servons. Mais c'est très difficile. Je sais que c'est difficile. Parfois, on utilise le camouflage. Hein. Les chrétiens, ils essaient de dissimuler avec la couleur de l'ambiance et tout cela. Mais non, nous ne devrions pas avoir honte de montrer notre vraie couleur. Si je suis chrétien, je suis chrétien n'importe où. Je ne peux pas changer ma peau, ma couleur comme je veux. On peut bien dire, qui est suffisamment pour ces choses? Suffisant pour ces choses. Mais si Christ est allé à une fête de mariage à Cana, il y a sûrement quelque chose que les chrétiens peuvent faire à des occasions similaires. Qu'ils se souviennent seulement qu'ils vont là où leur maître est allé, ils doivent aller dans l'esprit de leur maître. On est permis d'aller dans les fêtes, dans les mariages. Et on peut appliquer ça même pour la vacance maintenant. Comme nous sommes dans la temps de période de vacances, on peut appliquer ça à notre vacance aussi. On peut aller où on veut. Mais est-ce que nous perdons notre identité? Est-ce que nous perdons notre identité? Est-ce que nous cachons notre identité? Regardez le verset 3. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et ça aussi, c'est un verset qui a choqué beaucoup de personnes, qui choque encore. « Femme. » Imaginez, Jésus il appelle sa mère « Femme. » Ce n'est pas un terme de manque de respect en ces jours, à l'époque de Jésus, ce n'est pas un terme qui peut manquer de respect. Certaines choses venant d'une autre culture peuvent nous choquer aussi. Est-ce que Marie se comportait comme Marthe, qui s'inquiétait de beaucoup de choses? Les hommes peuvent parfois sourire sur l'attitude des femmes dans le domaine de l'inquiétude. Les femmes... Elle peut paraître plus inquiète. Mais sachez que sans les femmes, beaucoup de choses ne seraient pas faites, soit dans nos foyers et même dans l'église. Les choses ne seront pas, comme vous voyez, s'il n'y avait pas de sœurs qui sont travaillées. Le seul fait d'appeler femme, cela démontre la relation changeante entre Jésus et sa mère. C'est Jésus vient de commencer sa ministère ouvertement, mais pour démarquer que maintenant il doit occuper l'affaire de son père, il appelle Marie femme. Il montre une certaine distance. Marie, en tant que mère normale, n'a pas encore réalisé que Jésus a commencé déjà à s'occuper des affaires de son Père céleste. C'est toujours les enfants qui peuvent dire aux parents que, voilà, maintenant je suis grand. Et souvent les parents, ils oublient que l'état de leurs enfants. Et ici, Marie, une femme normale, elle pense qu'elle a toujours l'autorité ou... elle peut approcher de Jésus pour pour faire des choses. Mais Jésus, il montre clairement que maintenant, il devrait occuper les affaires de son Père céleste. Ou bien Marie, qui gardait toutes choses dans son cœur, les choses qui étaient dites sur Jésus, voulait qu'il manifeste ouvertement sa gloire, la gloire du Fils de Dieu. Marie, elle encaissait beaucoup de choses. Hein, et beaucoup de choses étaient dites sur Jésus, la prophétie, et même après. Et la parole dit, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Peut-être Marie, elle pensait que c'est le moment que Jésus devrait démontrer sa puissance ouvertement. Oui, le calendrier et notre montre ne s'accordent pas avec ceux de Dieu. Notre calendrier et notre pendule, ce n'est pas la même avec celle de Dieu. Christ attendait son heure pour faire son œuvre. Soit nous-mêmes en avance ou bien en retard. Le verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Qui a pu observer Jésus mieux que Marie sur cette terre durant 30 ans? C'est la seule personne qui a pu observer Jésus de plus près pendant 30 années. Qui peut prononcer ces paroles mieux que Marie? Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ce n'est pas un ordre au serviteur, mais une déclaration de sa soumission au Fils de Dieu, très haut. Et Marie, même si elle était la mère de Jésus, et même si elle enfanta Jésus, nous voyons ici la soumission de Marie à Jésus-Christ. Le verset 6, « Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » Donc, il manque du vin, et le serviteur, Marie, elle dit qu'il n'y a plus de vin. Et maintenant, le miracle commence. Donc, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs. Donc, nous savons que les Juifs, ils devraient faire la purification, ils devraient laver leurs pieds et leurs mains avant de venir pour la fête, avant de manger. Donc, il y avait une cérémonie de purification chaque fois. C'était une cérémonie élaborée et pénible à faire chaque fois. Et ces vases étaient là, 6 vases. Ils disent qu'à peu près, chaque vase peut contenir 120 litres de l'eau. Donc, il y avait cette vase. Et ces vases étaient vides. Et donc, Jésus le dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Et le serviteur obéit ce qu'il a dit, sans même comprendre, mais parfois, nous n'obéions pas Dieu ainsi. On veut premièrement comprendre pourquoi, on pose des questions, pourquoi, et après, on décide si on devrait obéir ou pas. Mais ici, son ordre était obéi. Et après avoir rempli, c'est marqué, il remplit jusqu'au bord. Et maintenant, verset 8, « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Et ils remplissent le vase, et tout de suite après, ils puisent l'eau, c'était changé en vin. Ici, nous voyons que Jésus, il n'est pas fait beaucoup de, il n'est pas touché la vase, il n'est pas touché l'eau, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ils ont simplement rempli le vase qui contenait l'eau, est devenu vin. Et Jésus transforma ces vases de pierre pour devenir le récipient de vin. Le vase de pierre qui signifiait la loi de purification, la loi pénible, la pénible observation de la loi de purification, Jésus transforme ces vases de pierre pour devenir le récipient de vin, qui signifie le vin dans la Bible, c'est souvent c'est la joie de vivre la vie chrétienne. Donc Jésus, il transforme immédiatement. Il n'y avait pas d'autre chose, ce miracle il est assez unique, il n'y a pas d'autre chose, Jésus n'a rien fait, simplement, il voulait transformer l'eau en vin. Et le verset 9, « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. » Parce que c'est eux qui sont versé l'eau et c'est eux qui ont pris l'eau de vase. Il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et ce que le monde peut, souvent le monde, il donne la bonne chose, il montre la bonne chose pour attirer les hommes. Mais finalement, il n'y a rien de bon qui sort. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Avec le Seigneur, quand on puise plus en plus, il y a de bonnes choses qu'il réserve pour ses enfants. Le premier miracle de Moïse fut de transformer l'eau en sang. Vous savez, le 10 plaies, Moïse il a opéré ses prodiges, ses miracles. Donc le premier miracle de Moïse fut de transformer l'eau en sang. Mais Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Le premier miracle a forgé la malédiction et le jugement. Le second a apporté la grâce et la joie. Nous apprenons par ces versets la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous parle d'un miracle qu'il a fait à la fête du mariage. Quand il manquait le vin, par un simple acte de volonté, il a transformé l'eau en vin et ainsi fourni le besoin de tous les invités. Il a voulu changer l'eau en vin, et l'eau était transformée en vin. Il n'a pas dit en parole, il n'a pas fait quelque chose de spécial pour bénir ces eaux, pour le transformer, mais par sa volonté, l'eau a été transformée en vin. Nous lisons dans la Bible qu'aucun prophète ou apôtre n'ait jamais fait un miracle de cette sorte. Celui qui pouvait faire un miracle de cette manière n'était rien de moins que le Dieu lui-même. C'est une pensée bénie que le même pouvoir de volonté tout-puissant que le Seigneur a montré ici l'est encore pour son peuple qui croit en lui. Le salut et tous leurs besoins spirituels sont fournis par sa volonté. La volonté de celui qui pourrait dire au Père. En Jean 17, 24, nous lisons, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire et la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » C'est la volonté de Dieu pour nous. Heureux ceux qui, comme les disciples, croient en lui, par qui le miracle a été fait. Le but que Jean il écrit cet évangile, qui raconte ce que Jésus a fait, le but c'est, puisque on peut croire en lui, puisque les disciples peuvent croire en lui. Une plus grande fête de mariage que celle de Cana aura lieu un jour, quand le Christ lui-même sera l'époux et les croyants seront l'épouse. Et un autre plus grand miracle, c'est l'Église de Christ. Et même les anges, ils penchent pour regarder ce que Dieu l'a fait. C'est un miracle. Et Dieu l'a dit qu'il rendra parfait, sans tache ni ride. Une plus grande gloire se manifestera un jour, quand Jésus prendra lui-même sa grande puissance et son règne. Heureux seront-ils en ce jour ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et donc, nous attendons ce jour où Christ, nous allons assister à ce mariage et nous serons l'épouse. L'époux viendra nous prendre et nous serons, nous allons assister à ce grand mariage de l'agneau avec son épouse qui est l'Église de Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous te louons car tu es bon. Seigneur, tu as descendu sur cette terre en notre faveur quand nous étions encore pécheurs. Seigneur, tu es venu nous chercher où nous étions. Dans notre misère, dans notre péché. Seigneur, tu nous as appelés. Seigneur, pour te suivre, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle. Et la Bible nous dit que tu nous rendras parfaits un jour. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits encore. Nous avons le problème avec le péché, nous avons le problème avec l'obéissance. Nous avons mal à voir ce que tu es véritablement. Mais Seigneur, nous croyons qu'un jour, tu nous rendras parfaits, sans tache, sans ride. Et ton Église sera enlevée pour être avec toi. Et tu régneras jamais sur nous. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ta parole qui nous donne la vie pour vivre dans ce monde, qui nous corrige, qui nous aide à vivre, Seigneur. Seigneur, nous te remercions et aide-nous à être des enfants obéissants et toujours avoir nos yeux fixés sur toi pour faire ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous présents ici. Seigneur, nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen.